Bonsoir, et bien de retour dans Ondes Noires, et on va retrouver dès ce début de seconde partie, Yann Lespoo.
Non ? Voilà, donc on a un petit problème technique, mais je pense que ça va bientôt se régler. Donc Yann, apparemment, n'est pas au bout du fil. Donc c'est dommage parce que, alors voilà, Yann, ça fait un petit peu plus d'un an qu'il avait fait ses premières chroniques avec nous. Et puis, ses activités professionnelles avaient fait qu'il ne pouvait pas continuer tout de suite le mercredi quand on officie, quand on parle de polar avec vous, donc et il était de retour, donc j'espère que là c'est le retour de Yann. On peut espérer qu'on va bientôt avoir Yann Lespoo. Alors tu pourrais le présenter, Jacques, et dire que c'est un des grands blogueurs de la sphère polar.
Voilà, il tient le blog Encore du Noir.
Il suffit de
taper dans Google Encore du Noir et vous le trouverez tout de suite. Il a un très beau blog, un grand lecteur qui aime beaucoup le noir comme nous, et sinon dans la vie il est prof d'occitan.
Ah, alors là on a la sonnerie, donc voilà, on vous fait tout vivre en direct, hein. C'est un suspense insoutenable, c'est normal, on est dans une émission de polar.
Voilà,
c'est presque un thriller, oui, effectivement. Ouais. Voilà, donc en fait, ce qu'on va faire...
On va mettre un peu de musique
en attendant que... Donc Jacques, tu présentes la musique ou pas? Tu présentes la musique?
Je la présenterai après.
Bon, d'accord, on va écouter la musique alors. C'est parti.
Like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene.
Et voilà, donc sans transition, on expliquera le morceau de musique tout à l'heure. Yann, bonsoir et bienvenue dans l'émission.
Bonsoir Corinne.
Ce miracle de la technique.
Donc vous allez nous amener dans le lointain Québec, me semble-t-il.
Tout à fait, du côté de la Restigouche.
Allons bon, c'est où ça?
Eh bien c'est au Québec.
Et voilà, autour d'en haut, c'est bon.
C'est une rivière dans laquelle les Indiens Micmac pêchent le saumon traditionnellement. Et en 1981, le gouvernement provincial du Québec, en conflit avec le gouvernement fédéral, s'en est pris en fait à cette pêche traditionnelle, puisque les Indiens Micmac sur leur réserve de la Restigouche étaient sous l'autorité du gouvernement fédéral, et le gouvernement provincial, pour marquer un peu son indépendance, a voulu interdire aux Indiens Micmac de pêcher le saumon cette année-là. Et c'est ce que nous raconte Éric Plamondon dans Takawan.
Donc, roman paru aux éditions, on va dire tout de suite le nom des éditeurs.
Aux éditions Kidam.
Voilà, donc c'est le début du roman, mais bien évidemment c'est un roman noir, donc ça va être dramatique, forcément.
Oui, ce que nous raconte Éric Plamondon dans ce roman, donc c'est le début des événements de la Restigouche, c'est-à-dire que les Indiens Micmac vont quand même vouloir aller pêcher et la sécurité du Québec va intervenir. Ils vont envoyer 300 hommes sur place pour mater la rébellion. Ils vont donc effectivement la mater en l'espace de deux raids. durant lesquelles ils vont violenter les Indiens Mi'kmaq qui sont sur place. Et Éric Plamondon s'intéresse à un personnage qui est une adolescente qui s'appelle Océane, qui habite sur la réserve avec ses parents, qui assiste à l'arrestation de son père et qui va vouloir intervenir. Et elle va elle-même se heurter aux agents de la Sûreté du Québec. Elle va être frappée, violée, abandonnée dans les bois. Et c'est là qu'un agent de la conservation de la faune, qui s'appelle Yves Leclerc, va la retrouver le lendemain matin. Et à partir de là, Éric Plamondon va donc dérouler l'intrigue noire de son roman. Leclerc va s'occuper d'Océane, va appeler à la rescousse un voisin qui est aussi un Micmac pour essayer de l'aider. Et très vite, ils vont se retrouver un peu dépassés par les événements, puisqu'il y a des gens qui ont envie de remettre la main sur la jeune fille.
Oui, c'est un témoin gênant.
Témoin gênant et potentiellement autre chose, mais ça, on va le découvrir au fur et à mesure. Et ce qui est très intéressant dans Pacawan, dans son roman, c'est que Éric Plamondon livre un roman totalement polymorphe, on va dire. C'est une espèce de millefeuille constitué de très très courts chapitres qui changent de point de vue. Alors on a cette intrigue avec Océane et Leclerc tout au long du livre, mais aussi de très courts chapitres qui évoquent l'histoire des Micmacs, mais aussi la pêche au saumon, des recettes de cuisine, des extraits d'émissions de télévision ou de radio de l'époque. Et tout ça va former une espèce de kaléidoscope qui va créer tout un paysage à la fois donc de romans noirs, de romans historiques. Mmh. Et c'est quelque chose de vraiment étonnant.
Il doit y avoir des beaux moments aussi de description de paysage, je suppose.
Pas tout à fait, hein, bien sûr. Hein, là, on est toujours dans des paysages grandioses. Mmh. Et une nature qui demeure extrêmement sauvage.
Oui, puis il n'y a pas que la nature qui est sauvage, apparemment.
Non, non, non. Et tiens, et d'ailleurs, si vous le permettez, je peux vous lire un petit extrait à part
qui s'appelle
Sauvage, justement. Des Indiens. Ce sont des Indiens. On les a appelés comme ça parce qu'on croyait être arrivés en Inde. Mais non, on était arrivés en Amérique. Avec le temps, on s'est mis à les appeler des Amérindiens. Plus tard, on dira des Autochtones. Avant ça, on les a longtemps traités de sauvages. On les a surnommés comme ça, des hommes et des femmes sauvages. Il faut se méfier des mots. Ils commencent parfois par désigner et finissent par définir. Celui qu'on traite de bâtard toute sa vie pour lui signifier sa différence ne voit pas le monde du même œil que celui qui a connu son père. Quel monde pour un peuple qu'on traite de sauvage durant 4 siècles. On a comme ça de courts chapitres qui peuvent être un petit peu introspectifs, d'autres très descriptifs, hein, donc de la nature, de l'intrigue, de la remontée des saumons le long des rivières. Et tout ça, ça permet de donner vraiment une complexité au propos de Plamondon. Hein. C'est pas juste se flageller en tant que blanc par rapport à ce qu'on a pu faire aux Indiens. C'est beaucoup plus nuancé que ça. Et ça permet aussi de mettre des mots sur ce qui s'est passé, effectivement, hein, sur le moyen qu'ont eu les Européens de s'imposer en niant l'identité de ces Indiens Micmac.
Alors, il y a tout ça... Pardon, excusez-moi,
non,
Yann. Oui, il y a tout ce contexte historique et tout, mais ce fait divers d'interdiction de la pêche et puis des raids qui sont... C'est parti d'un fait réel, d'un fait divers réel, est-ce que vous savez ou...
Oui, c'est une histoire tout à fait,
c'est,
tout à fait réelle.
C'est terrifiant.
C'est ce qu'on a appelé la guerre du saumon en 1980-1982. Ça a été des événements assez violents qui ont été... médiatisé à l'époque, bon, essentiellement au Québec, on n'en a pas trop entendu parler ailleurs, et même au Québec, c'est resté un peu sous l'étouffoir, et ça a été ensuite réexpliqué dans un film documentaire qui s'appelle Incident à Restigouche.
Eh ben, si on peut le trouver, ça peut être intéressant, parce que c'est vrai que c'est une histoire dont on ne semble pas avoir entendu parler, ce qui qui est dingue, c'est d'imaginer que c'était, ça se passe au 20, ou à la fin du 20e siècle. Donc, voilà, on parlait de sauvages, oui. Mais c'est assez édifiant, on va dire.
C'est oui, les sauvages sont de tous les côtés, là, pour le coup.
C'est un paradoxe. C'est ça qui est vraiment très intéressant, puisque là, en l'occurrence, les Indiens se trouveraient entre le marteau et l'enclume, entre le Québec, entre le gouvernement provincial du Québec et le gouvernement fédéral canadien. Et vont être utilisés là-dedans. Et c'est le paradoxe, c'est effectivement ce Québec qui essaie d'avancer sa revendication d'une culture différente, qui est la culture francophone, en se considérant comme minoritaire au Canada et victime des anglophones, et qui pour cela va taper sur une autre culture qui est elle aussi victime et qui est elle aussi écrasée par les autres.
Bon, ils ont un peu l'habitude, hein. Ils avaient fait ça déjà il y a quelques siècles avec ceux qui sont devenus les Acadiens. Hein. Donc,
voilà,
comme vous avez cité l'extrait 4 siècles, décidément, l'histoire est un éternel recommencement. On va peut-être citer donc, le titre du roman, l'éditeur et puis évidemment l'auteur de ce roman.
Eh bien, ça s'appelle Takawan d'Éric Plamondon et c'est chez Kidam Éditeur.
Eh bien Yann, on vous remercie beaucoup. On espère
merci
bientôt vous retrouver sur nos ondes. Et puis de toute façon, comme on l'a dit juste avant, quand on vous cherchait désespérément la planète du téléphone portable, on peut vous retrouver très très régulièrement pour trouver vos chroniques dans les chroniques d'Encore du Noir. Il suffit de googliser Encore du Noir et on tombe sur de nombreuses de vos chroniques qui donnent envie de lire et encore du roman noir. Merci beaucoup Yann, à bientôt.
Merci à vous et à bientôt.
Au revoir. Alors,
bon,
on
la musique,
a passé,
on l'a déjà
la musique, c'est fait. La musique,
voilà.
C'est fait. Mais
enfin,
faut peut-être
on va
la justifier quand même.
Voilà.
Hein.
C'était un morceau de Dolly Parton, un de ses plus célèbres morceaux qui s'appelle Jolene. Ça s'écrit Jolene. Et ça a été choisi par Marion Brunet, qui était là dans notre première partie.
Un petit clin d'œil à Marion Brunet.
Un petit clin d'œil à Marion Brunet et à Joe, un des deux personnages, des deux personnages, donc, des deux jeunes adolescentes, puisqu'elle s'appelle Joe à cause peut-être de cette chanson Jolene, qui est une, c'est pas complètement idiot parce que c'est une histoire d'amour assez classique dans la musique country. Dolly demande à Jolene de ne pas lui prendre son mec puisque elle peut avoir tous ceux qu'elle veut, tous les mecs qu'elle veut.
Voilà, ben c'est un petit peu. Et puis donc Marion Brunet cite cette chanson dans L'été circulaire, paru aux éditions Albin Michel. Jack, tu vas terminer avec un roman dont la couverture est d'un jaune éclatant.
Un jaune éclatant avec un monsieur assez corpulent qui dort sur le fauteuil, enfin la chaise d'un tracteur. Du moins, c'est ce qu'on dirait. C'est un roman de Vincent Ravalec qui s'appelle Sainte-Croix les Vaches, qui est publié aux éditions Fayard. Alors, on connaît Vincent Ravalec pour son premier succès, en 92, déjà, ça fait longtemps, Le Cantique de la Racaille, où il faisait une ressucée habile de roman noir américain à la Goodies, mais en version années 80. J'avais bien aimé à l'époque, on avait bien aimé, mais j'avoue que j'avais pas lu grand-chose de lui depuis. Jusqu'à ce roman, Sainte-Croix-les-Vaches, donc, qui est un polar rural, mais à la façon Ravalec. Ne vous attendez pas à du Frank Buis ou à du Ron Rash. Ravalec fait un roman burlesque, du moins pour cet opus. En fait, ce roman est beaucoup plus proche de Fantasia chez les Plouks, une version 2.0 dans l'Écosse. Alors l'Écosse, c'est l'Écosse en deux mots, C-A-U, deux S-E-S, voilà.
Oui.
Alors, dans le rôle de Sagamore Noonan, il y aura Thomas Sorlut, je sais pas, parce que comme c'est dans le sud-ouest, on peut peut-être prononcer, qui est le maire de Sainte-Croix-les-Vaches. Et dans le rôle de Miss Harrington, qui était tenue au cinéma par la très belle Mireille d'Arc, c'est Sheila. Sheila, c'est la toute récente députée du parti En Avant. Alors, Sainte-Croix-les-Vaches, c'est un village, tout petit village d'Écosse, donc je le disais tout à l'heure, isolé de tout. Il n'y a même plus de gendarmerie pour porter plainte, dit l'un des habitants. Je ne parle pas d'une école ou d'un médecin. Bon, l'école, en fait, il n'y en a plus vraiment besoin puisqu'il n'y a plus d'enfants. Alors maintenant, qui sait qui fait qu'il n'y a plus d'école parce qu'il n'y a plus d'enfants ou plus d'enfants parce qu'il n'y a plus d'école? Donc ça, le problème est réglé. Pour le médecin, c'est pareil. Ils vivent au grand air, donc ils tombent jamais malades. Enfin, du moins, ils essayent en tous les cas. Et donc, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des vaches, des loups et des plantations. Des plantations de quoi, vous allez me dire ? Des plantations de cannabis labellisées bio. En fait, c'est un petit business que Thomas, le maire, a monté depuis quelques années, et avec des Marseillais qui sont chargés de refourguer sa cam. Donc, Saga Mornounan, si vous vous rappelez de Fantasia chez les Ploucs, c'était de l'alcool pendant la Prohibition. Lui, c'est de la belle herbe qui fait rigoler. Le petit caillou dans l'engrenage bien huilé, c'est l'arrivée de Sheila et de Jeanne, qui est donc, Sheila, c'est la nouvelle députée, Jeanne, c'est son assistante. Ils veulent, selon leurs propres mots, désenclaver le village. Il faut faire 70 km de route de montagne pour avoir du réseau 4G. Évidemment, ça ne peut pas marcher comme ça de nos jours. Alors, sous le côté fable loufoque, un espèce de Tony Soprano d'Escosse, Ravalec va nous ramener dans une réalité bien, bien actuelle. Il sera beaucoup question du pouvoir de Lactalis sur les institutions locales.
Tiens, c'est un nom qui
les institutions
chose.
Régionales, les institutions nationales. Et puis, il sera aussi beaucoup question de tous ces députés sans expérience qui s'agitent simplement pour se faire mousser à Paris, quitte à s'acoquiner avec Michel Onfray. Alors, on suppose que les services juridiques de Fayard ont dû prévenir Vincent Ravalec qu'il valait mieux appeler ce parti autrement qu'En Marche, même si, dans le livre, c'est un parti tout jeune qui est sorti d'un président qui n'était pas élu nulle part. Ça s'appelle En Avant, oui. Donc voilà, c'est En Avant, En Marche. En Marche, c'était risqué, donc En Avant, ça allait moins.
Oui, mais enfin, toi, tu l'as dit, donc est-ce que tes services juridiques sont avertis?
Alors, on verra avec les services juridiques d'Agora Côte d'Azur. Voilà, donc cette députée va essayer de désenclaver la région avec des méthodes un peu de parisienne. C'est une succession de gags sur 250 pages où les Parisiens peuvent être parfois beaucoup plus ploucs que les paysans du coin. 250 pages de littérature débridée où il sera beaucoup question du rivage des Sirtes de Julien Gracq, n'est-ce pas ? Mais je vous laisse lire pourquoi et comment, je vais pas tout vous révéler. 250 pages sur l'implantation de la permaculture en milieu désertifié. Et aussi 250 pages sur les avantages de la beuh bio cultivée en plein champ par rapport aux ersatz hydroponiques vendus à la sauvette dans les quartiers de Marseille ou de Lyon.
Surtout des fois qu'il y avait des morceaux de caoutchouc brûlés.
Petite cerise sur le gâteau et même sur le gâteux, car en fait il y en a un dans le village. L'éditeur nous annonce en dernière page une suite à ce roman. Le retour d'Horace. Où Horace, en fait, lui, c'est un fameux taureau reproducteur décédé depuis quelques années, dont il reste du sperme congelé quelque part en Écosse. Et ce coup-ci, l'Écosse, c'est celle des kilts et des cornemuses.
L'Écosse.
Voilà, donc, on en reparlera sûrement. Donc, je rappelle, juste avant que les informations arrivent, un roman de Vincent Ravalec qui s'appelle « Sainte-Croix-les-Vaches » aux éditions Fayard.
Bon, on a juste 10 secondes pour vous dire au revoir, chacun dans son coin avec un bon bouquin.
Et
à la prochaine émission.
On vous a conseillé quelques-uns ce soir. Bonsoir et à bientôt.